Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dans ce live slash podcast de débrief, le PSG s'était imposé lors de la première journée de la Youth League 5-3 contre Turin. Il était ensuite allé gagner 5-1 ou 5-0 à Haïfa.
5-0 face à Haïfa.
Voilà, avec une équipe de Haïfa très faible. Et donc, il jouait sur la pelouse de Benfica hier, comme les pros, mais c'était à 16h. Une équipe de Benfica qui avait gagné l'an dernier la Youth League, qui donne donc une idée de leur niveau général, mais qui cette saison est en difficulté, puisqu'ils avaient un point après deux matchs. Ils avaient réussi à perdre à domicile contre Haïfa, et ils sont allés chercher le match nul, si je ne me trompe pas, à Turin lors de la deuxième journée. On va attaquer sur le déroulement de la rencontre. Tu veux raconter un peu comment ça s'est passé, ce Benfica PSG, avant qu'on parle un peu plus des joueurs, parce que c'est un peu l'occasion de parler d'eux.
Ouais, allez, pas de souci. Alors, une première mi-temps globalement à l'avantage de Benfica, 45 minutes qui était assez compliqué quand même et assez brouillonne côté PSG, avec une équipe de Benfica qui était quand même vachement bien en place et très facile techniquement dans les petits espaces. Enfin, ils nous ont causé quand même beaucoup de problèmes. Un retour après les vestiaires qui s'est plutôt bien passé pour le PSG, avec un quart d'heure de haut niveau où ça allait des deux côtés, ça allait vraiment en attaque du côté de Benfica comme du côté du PSG. On a eu pas mal, enfin le jeu s'est vachement découvert, et au final le PSG qui l'emporte 1-0 grâce à un but de Ilyes Housni dans les dernières minutes de jeu à la 80e minute. En ayant souffert, parce que Benfica s'est quand même procuré beaucoup plus d'occasions, a tiré 22 fois au but, le PSG seulement 7.
Ah oui, tant que ça.
Mais Benfica, Benfica a cadré seulement 4 fois, comme le PSG en fait, et a manqué cruellement de réalisme. Il y a eu des arrêts déterminants quand même du côté du PSG de la part de Louis Mouquet, et je pense que globalement, c'est une bonne prestation du PSG d'aller s'imposer
à Benfica.
Ouais, c'est un bon résultat, parce que aller s'imposer à l'extérieur face aux tenants du titre, même s'ils ont perdu pas mal de joueurs, dont le fameux Antonio Silva qui était hier du côté des pros et qui a posé quand même pas mal de tort à Mbappé, Messi et Neymar. Mais il y avait quand même des joueurs qui faisaient partie du noyau de la saison dernière, comme Diego Moreira.
Qui fait pas un très bon match d'ailleurs.
Ouais, qui fait pas un très bon match, mais qui est quand même assez remuant sur le côté. Et voilà. Je pense que c'était quand même une très bonne opération comptable d'aller s'imposer à Benfica. Tu les enterres, ils sont à un point, donc c'est presque mort pour eux à la qualification, malgré que. Ça reste ouvert, il reste 3 matchs, mais avec 1 point sur 9, c'est vraiment pas terrible.
Ils peuvent viser la deuxième place avec un peu de bol.
Ouais. Alors que le PSG a un pied et demi qualif à l'élimination directe avec 9 points.
Voilà, je vais expliquer pour ceux qui ne savent pas. En fait, la Youth League, c'est pas comme les pros. Le premier de la poule est qualifié directement pour les huitièmes, et le second joue un tour de barrage face aux équipes issues de la Voie des Champions. Donc, par exemple, en U19, c'est Nantes, si je ne me trompe pas, parce que hier, je crois qu'ils jouent en Arménie. Donc, le PSG jouerait un des champions nationaux U19 de l'an passé. C'est un peu compliqué, mais au bout d'un moment, on s'y retrouve. Pour compléter sur le déroulement du match, je trouve qu'effectivement, le PSG a vraiment pas fait une bonne première mi-temps. Honnêtement, on est catastrophique. Techniquement, énormément d'erreurs, de relances, de tout. La défense qui se retrouve sursollicitée. Un peu comme le match des pros, au final. Je ne sais pas si vous voyez le début de match où l'équipe première n'arrive pas à s'en sortir. C'est un peu ça, la première mi-temps du PSG. Mais contrairement aux pros, Benfica n'a pas beaucoup d'occasions en première mi-temps. Je crois que Mouquet ne fait pas un arrêt, par exemple, en première période. Il y a beaucoup plus d'occasions en seconde mi-temps. Globalement, tous ces joueurs en seconde mi-temps. Le PSG a bien rééquilibré collectivement après la pause. Pourtant, aucun changement. Je pense que Zoumana a dû leur dire « Arrêtez de jouer comme des crétins, en mode « Faites des talonnades et tout. » Arrêtez. Jouez simple. Soyez plus haut sur le terrain. Jouez simple. » Parce que tu vois que c'est un peu la même équipe. Et pourtant, ça n'a rien à voir dans le rendu collectif. Où Benfica a eu énormément d'occasions, c'est sur la fin de rencontre. Dans les arrêts de jeu, on leur donne des occasions, on fait n'importe quoi à la relance. Je pense que les pauvres gamins étaient complètement cuits physiquement. Moi, j'ai vu des joueurs vraiment fatigués, beaucoup de pertes de lucidité. Le PSG jouait quand même sans deux joueurs très importants qu'on n'a pas cités, c'est Bichabu en défense centrale, même si là, on en va en parler de la défense centrale qui a fait un très bon match, mais ça reste un joueur important. Et Zahir Emre au milieu de terrain qui a pour le coup énormément manqué. On a vu quand le PSG avait du mal à tenir le ballon, à sortir, c'est un joueur où forcément bah, il est très à l'aise. Donc ça s'est un peu vu, quoi. On nous dit sur la live agréablement surpris par la victoire des Titi. Nous aussi. Et c'est pas un hold-up, mais je pense qu'un match nul aurait peut-être mieux représenté le match. Je sais pas ce que t'en penses, Lucas.
Ouais, je pense complètement, parce que notamment en fin de match, après l'ouverture du score, les 10 dernières minutes sont vachement difficiles. Il y a beaucoup d'occasions, notamment dans le temps additionnel, où on se prend une vague d'offensive de la part de Benfica. Et globalement, c'est une équipe qui a quand même manqué de réalisme, surtout. Face à un PSG qui a été efficace et qui a converti à peu près la seule grosse occasion, même si Ousni s'en était procuré une aussi en première mi-temps. Mais on a su convertir une des rares occasions du match. Il y a eu que 7 tirs, 4 cadrés, c'est pas grand-chose.
Il y a quand même une énorme occasion pour Ousni en début de seconde période. Le ciseau qui claque, qui est incroyable.
Oui, ouais, exact.
Il n'y a pas un poteau aussi à un moment ? J'ai un doute. On touche pas le montant ? Ah non, je confonds avec le match des pros avec Neymar, parce que c'est à peu près aux mêmes minutes, vers la 50e, excusez-moi, j'ai un peu enchaîné hier les rencontres. Ah, une question très simple, mais très importante. Comment avez-vous vu le match ? Alors, il y avait de la diffusion sur PSG TV Premium. Avant tous les matchs de Youth League, on vous fait une présentation avec un peu le contexte, la compo, donc les absents, les présents, les adaptations de Zoumana, et les diffusions, comment regarder le match. Bon. On va pas vous mentir, regarder la Youth League, c'est être aux frontières de la légalité. Quand on a joué à Haïfa, on n'était pas sur des trucs très très légaux, mais c'est comme ça. Il n'y a pas forcément le choix. Mais en revanche, PSG TV Premium et le rematch retour sera diffusé sur Bein. Mais en tout cas, avant toutes les rencontres, on vous fait une présentation très complète, justement, parce qu'on sait que c'est très sympa à suivre comme compétition, mais c'est pas toujours facile. D'où cet article qui tombe en général 1h30 avant le coup d'envoi quand la compo arrive. Voilà.
Et d'ailleurs, le match retour qui sera aussi diffusé sur la plateforme de l'UEFA TV. Oui. Qui retransmet les rencontres gratuitement, et franchement, c'est de bonne qualité, donc
pas non, mal. C'est très bien, tu as raison, effectivement, streaming légal qui existe, vous êtes au travail, petite fenêtre sur le côté, hop, caché derrière la tableur Excel, vous êtes bien. On nous dit, pendant le premier acte, l'équipe était en retard sur absolument tout, ils ont fait appel à d'autres ressources pour résister et ensuite marquer ce but libérateur. Ah, c'est totalement ça, il y a une résistance un peu mentale, et je pense qu'on va assez vite basculer sur les perfs individuels, parce que ça reste, hein, on va pas non plus... Il n'y a pas mille trucs à dire, mais oui, il y a eu une vraie résilience. Et ensuite, la seconde mi-temps est beaucoup plus équilibrée. On n'est pas loin de faire la différence. Sur la durée, je pense que les absents côté parisien se sont fait sentir, parce que Zoumana a dû faire rentrer des joueurs très jeunes. De mémoire, c'est qui rentre en jeu côté parisien. Chikambou rentre dès la mi-temps. Diawara rentre à l'heure de jeu pour Bagbema. D'ailleurs, j'ai pas compris, Bagbema, il était blessé, Lucas, ou pas ?
Non, je crois pas, mais c'est un changement. Peut-être parce que Bagbema avait quand même quelques soucis, des difficultés à ressortir de la pression au milieu, notamment en première mi-temps. Après, je sais pas si ça se prolonge sur le quart d'heure qui suit, mais je pense que bah il joue beaucoup, donc.
Moi, honnêtement, le changement m'a surpris. Hein. Vu la rencontre, je m'attendais plus à voir Carry, comme on dit sur live, comme quoi il était peut-être, il est pas tout à fait à la hauteur pour l'instant. Bon, on va en reparler. Je te propose, on va passer un peu en revue toute l'équipe, parce que comme d'habitude, Papus avait aligné le 3-4-3 qui est un peu calé sur celui de l'équipe première. Je vais vous donner la compo rapidement et puis après on va faire un peu ligne par ligne. Donc dans les buts, c'était Louis Mouquet qui est le titulaire en Youth League, puisque je crois que Lavallée n'a pas joué le moindre match cette saison, si je me trompe pas, en Youth League. Il me semble qu'il a le statut.
Il est plus éligible, il est 2003.
Il est 2003. Ah oui, il était joker l'an dernier. Oui, tu as raison. Ouais. Je le voyais plus jeune que ça, parce qu'il est novembre 2003, si je ne me trompe pas, Lucas Lavallée. Ensuite, en défense centrale, donc pas de Bichabu. Donc c'était Fernandez Véliz, qu'on a vu avec les pros cet été, qui jouait axe gauche. Dans l'axe, c'était Younous Elanash, qui est le jeune que je vous ai mis en photo d'illustration, là. Et un grand merci au PSG pour les photos d'illustration. Cœur sur vous, les amis, parce que j'en ai pas beaucoup, voire pas du tout cette saison. Et ensuite, axe droit, c'était Hugo Lamy, qu'on avait vu contre la Juve en piston droit, qui est plutôt au départ un latéral de défense à 4 et qui alterne entre les deux rôles en ce moment. Sur le côté gauche, donc piston gauche, c'était Vimoge, Muntu Wamungu, qu'on avait déjà vu l'an dernier en Youth League. À droite, c'était le jeune Zague, si je ne me trompe pas, Yoram Zague, voilà. Et dans l'axe, c'était donc le duo Ayman Kari, que lui vous connaissez, qui a déjà signé pro, avec, comment il s'appelle, Bagbema, dont le prénom m'échappe, et que...
Zoumana.
Zoumana Bagbema, voilà. Ensuite, devant, on avait le trio habituel, Noah Lemina, qui est un puncher ailier, qui était donc ailier droit, qui est le petit frère de Mario Lemina, qu'on a vu excellent au Parc des Princes avec Nice il y a 10 jours maintenant. 6 jours, pardon. Et à gauche, Ismaël Garbi dans un rôle de faux ailier, joueur qui va rentrer intérieur. En pointe, c'était Ilyes Housni, qui est le buteur du match, et que je vous avais mis tout à l'heure en illustration pour lancer live, parce que c'est quand même son but qui vaut très très cher. Il fait un bel enchaînement sur le but d'ailleurs. Bon, je te propose de commencer dans les buts. Louis Mouquet, qui a donc encore une fois été titulaire, qui pour l'anecdote, et même si son nom ne l'indique pas, est donc international portugais chez les jeunes.
Ouais, d'ailleurs, scruté de près par les commentateurs de la chaîne portugaise qui retransmettait le match Eleven. On avait fait un petit sujet d'actualité du coup en analysant sa performance de plus près. Et il a été plutôt bon dans les cages.
Ouais. Oh, il fait notamment, juste après le retourné de Housni, là, qui est à la 50-55e, il fait notamment un arrêt à ras de terre qui est assez impressionnant. Ouais. Belle détente. Après, en fin de rencontre, il y a des moments où il est un peu plus hésitant, mais c'est normal. C'est des situations très dures à gérer. Il y avait beaucoup de monde. Benfica envoyait des centres où il y avait quelque chose comme 8 joueurs entre le point de pénalty et la ligne de but, pour vous donner une idée. Donc, facile, 8-10 joueurs, même plutôt 5 Parisiens qui défendaient, 4-5 attaquants adverses. Bon. Globalement, il s'en est bien sorti. Merci à Amdare pour le sub et à LazySnake21 qui cumule. Bravo à toi. Ainsi. Voilà. En défense, je pense qu'on va en parler deux parce qu'ils ont vraiment, vraiment fait un bon match. Tu veux commencer par lequel des trois
Peut-être qu'on va de droite à gauche avec Hugo Lamy, du coup.
Oui, donc Hugo Lamy, comme je disais, qui était piston droit sur le premier match et qui aujourd'hui est central droit puisque Bichebu n'est pas là et que donc Fernandez Vélis fait la bascule et passe côté gauche. Oui, donc Hugo Lamy, je te laisse en parler un peu.
Ouais, c'est ça. Alors, donc Lamy qui était axial droit et qui occupe le poste depuis plusieurs matchs, même en championnat, qui laisse du coup sa place à Zagué sur le côté droit. Et honnêtement, je trouve que ça lui va plutôt bien, ce poste.
Ouais, je suis d'accord.
Il a des qualités de défenseur importantes, même qui prennent le dessus peut-être sur sur ses qualités offensives. Parce que de base, c'est plus un joueur de défense à 4 et qui est très solide dans les. Il aime le contact, il aime les duels. Et pour moi, on nous dit dans le chat, Lamy n'est clairement pas un piston. Moi, je suis complètement d'accord. Je trouve que c'est pas un joueur de système à jouer plus haut en piston comme ça. Donc, je trouve que ça lui va très bien ce poste d'axial droit dans une défense à 3. Et il l'a montré de nouveau, il jouait au poste d'axial droit face au Maccabi Haïfa, il avait déjà fait un bon match. Le PSG n'encaisse aucun but, même si Haïfa était beaucoup moins solide et offensivement que Benfica. Et là, il a confirmé encore une fois voilà, une défense du PSG qui prend aucun but face à une équipe qui a quand même pourtant bien poussé, avec, comme je le disais en début de live, 22 tirs. Ce qui n'est pas rien quand même face à un PSG qui tire que 7 fois. Mais ça a tenu le choc et j'ai trouvé sa prestation vraiment, vraiment bonne.
Ouais, on dit sur la live de très bien pour les sorties balles, effectivement, techniquement, ça a bien sorti. Ouais. J'ai beaucoup aimé la façon qu'il a eu de revenir, de verrouiller le couloir comme ça. Je trouvais que c'était bien. Dans une défense à 3, on sait que c'est parfois particulier pour les deux joueurs de côté. Je trouve qu'il a bien interprété le rôle, alors que c'est pas forcément quelque chose qu'il a beaucoup connu, parce que le PSG joue rarement à 3, à part depuis cette saison en jeune. C'est plutôt en général des défenses à 4. Et je trouve qu'il fait partie de ces joueurs qui ont tout à gagner à jouer un peu ce rôle central droit de défense à 3. Donc c'était vraiment pas mal.
Il expérimente le poste depuis vraiment quelques matchs. Hein. Ça fait 4-5 matchs qu'il est aligné à ce poste.
Ouais.
Donc c'est solide.
À suivre. En tout cas, c'est bien d'avoir comme ça, sachant qu'au départ, il ne devrait pas être titulaire à ce poste-là, parce que la défense centrale type, ça serait Bichebu à gauche, Fernandez Vélis à ce poste de central droit et Elanaj dans l'axe. Ouais. Elana, justement, le capitaine, qui est franchement dans une belle, belle forme en ce moment, lui aussi a vraiment fait un bon match. Pas grand-chose à se reprocher. Techniquement, il a été propre. Il a fait notamment un excellent retour en seconde période sur un contre où il fallait intervenir proprement, sans faire de faute et tout. Et, il est de juin 2004, donc il a eu 18 ans il y a 4 mois. En plus, 4 juin 2004, donc vraiment il y a 4 mois pile. On nous dit sur live, il mérite de s'entraîner avec les pros. Ah, je pense qu'il va de plus en plus s'entraîner avec les pros parce que chez les jeunes, il y a Bichabou qui est là, mais en central droit, il n'y a pas grand monde. Avec Kimpembe blessé, je pense qu'il était. Je me souviens plus s'il était là pendant la trêve ou s'il était en. Mais non, il devait être en sélection pendant
Ouais,
la trêve.
il était avec les U20.
Ouais.
Et du coup, bah, au contraire de Fernandez Feliz et Lamy qui ont profité de la trêve pour monter avec les pros, lui, était en sélection. Donc voilà.
Ouais. Tu rejoins le fait qu'il a fait vraiment un très bon match ou il y a des choses où tu as
Je
été un peu moins
trouve qu'il
convaincu?
a fait. Non, c'était solide. Et puis surtout, en fin de rencontre, il fait des interventions vraiment très très précieuses. Notamment une, je sais pas si tu l'as en tête, mais où il tacle et il se fait mal.
Oui.
Mais elle était vraiment très très importante celle-ci. Et non, c'est des gestes de bons défenseurs. Hein. Donc il fait un très bon début de saison et ça se confirme face à un adversaire sans doute le meilleur adversaire qu'on a affronté depuis ce début du Youth League.
Et puis non, tu as raison de fait d'insister sur le fait qu'il a réussi des gestes de vrai défenseur en fin de match, quand ça pousse, où il faut, comment dirais-je, il faut tenir bon, il faut jouer juste, il faut pas faire de bêtises. Je crois qu'il se loupe un peu sur une relance en fin de rencontre. Mais c'est là aussi on voit que c'est du football de jeunes, parce que par exemple, si vous regardez un peu la fin de match, c'est un peu du hurrah football dans les derniers mètres. À tenter de relancer au pied, il y a des moments, faut mettre des sacoches, hein, vous posez pas de questions. Voilà. L'autre. Oui.
Comme tu disais justement, c'est la physionomie du match apporte aussi un vrai test au PSG qui avait verrouillé les rencontres précédentes assez rapidement.
Ouais.
Face à la Juve, on rentre au vestiaire avec un avantage de 5-1 à la mi-temps. Face au Maccabi Haïfa, tu plies le match au bout d'un quart d'heure de jeu avec deux buts consécutifs. Là, tu attends la 80e pour ouvrir le score. Donc forcément, bah, t'es plus exposé et l'équipe d'en face y croit jusqu'au bout. Donc là, c'était vraiment 90 minutes à défendre. Fallait être sérieux.
Ouais. Non, mais tu as raison effectivement d'en parler. Axe gauche, c'était le jeune Nehemia Fernandez-Véliz, que pour certains se rappellent, on l'a vu avec les pros en. On l'a vu cet été avec les pros en match amical, je ne suis pas zinzin.
Non, non, ouais, on l'a vu avec les pros, ouais.
Ouais, c'est bien ça. On nous dit ici, à propos de LNH, déjà contre la Juve, j'ai trouvé très à l'aise sur ce poste. On nous dit, est-ce que Galtier a son mot à dire sur les matchs de Youth League? Non, ce que Galtier a son mot à dire, c'est sur la composition du groupe. Si les pros ont besoin de deux joueurs de la Youth League, il y a forcément priorité pour l'équipe première. On parle, les intérêts sont bien plus importants. Les enjeux, pardon, sont bien plus importants. Donc c'est normal que s'ils disent à Hyrem Riz doit venir avec les pros, Bichabou doit venir avec les pros, parce qu'on ne sait jamais, évidemment que Zoumana Camara va lui dire, ah non, t'es gentil, non, l'équipe première et l'équipe première. C'est dans le titre, hein, on va pas faire semblant. Et la Youth League, il s'adapte. C'est pour ça que même si Zaïre Emery n'a finalement pas joué une minute à Lisbonne, qu'il soit avec les pros, la Youth League, eh bien, il était sur le banc de la Youth League au cas où Bichabu encore plus. Voilà, c'est comme ça. Mais il n'a pas son mot à dire sur la compo, en revanche, ou sur les matchs. Je suis même pas sûr qu'il était au stade de. Mais je suis sûr qu'il n'y était pas, parce que le match était de 16 à 18, donc il pouvait pas être ensuite avec les pros. Peut-être qu'il a regardé en revanche, parce que à mon avis ça l'intéresse. Je suis en revanche à peu près certain que Luis Campos a regardé le match par exemple. Sur Fernandez-Véliz, Lucas, bonne rencontre. Il me semble que c'est la télé portugaise qu'on a parlé en bien, si je me trompe pas, non?
Ouais. Honnêtement, bah, j'ai trouvé pendant un long moment que c'était l'un des meilleurs joueurs côté parisien, peut-être le meilleur. En première mi-temps notamment, lui est pas passé à côté. Il était déjà solide. Et ça s'est confirmé en deuxième mi-temps avec des interventions précieuses, notamment de la tête, où lui il a été vraiment omniprésent dans les duels aériens.
Ah, il est grand, lui, hein.
Ouais, et franchement très à l'aise dans les airs. Il en enlève une, notamment sur un centre de Benfica qui était vraiment important et qui allait procurer une sérieuse occasion. Bah lui, avec Elanache, je trouve que les automatismes sont bien et sont travaillés. Ça fait 2 saisons maintenant qu'ils évoluent ensemble, donc
Ça tourne, hein.
et peut-être même plus hein, avec les catégories d'en dessous. En tout cas, moi, ça fait 2 saisons que je les vois ensemble et chez U19 et ils jouent bien ensemble, tu sens qu'il y a une complicité entre les deux. Et pour le coup, en plus, comme tu l'as dit, il est axial gauche alors que d'habitude c'est plutôt un axial droit. Et il est vraiment à l'aise aussi à la relance. Donc c'est plutôt positif dans l'ensemble. Des deux pieds, il a su faire le job pour casser des lignes et tout. C'était intéressant.
Ouais. Et puis on l'a un peu dit pendant qu'on parlait de la prestation collective, mais faut le dire, la défense a quand même beaucoup encaissé de vagues en première mi-temps et ça a tenu. Notamment parce qu'individuellement, ils n'ont pas fait d'erreur. Autant je trouve qu'ils se sont un peu loupés sur la fin de match quand il s'agissait de relancer, autant en première mi-temps, le problème, c'était pas les trois derrière. Les trois derrière, ils ont plutôt rattrapé les coups pour tous les autres. Donc ils ont vraiment eu un match compliqué. Je trouve que c'est très prometteur pour eux parce que ça reste des jeunes joueurs qui découvrent un peu ce niveau-là. On va pas faire semblant. C'est la Youth League, c'est quand même plus dur que le championnat national, même s'il y a des très très bonnes équipes en France. C'est pas tous les jours que tu joues des Diego Moreira, que tu joues ce genre de joueurs qui sont voués à devenir des internationaux portugais ou au moins des joueurs importants de l'équipe première de Benfica. Parce que on a joué quelques joueurs hier, là, notamment le relayeur droit, le 20, le petit qui a grosse touffe.
Ouais,
Oh là là, qu'est-ce qu'il était fort lui, le Joao
ouais.
Neves, ah, le nom très typique, et vraiment super joueur, il a fait mal, c'est intéressant pour ce genre de jeunes de jouer à ce niveau-là quand même. Et ils s'en sont vraiment bien sortis, c'est pour ça que c'est bien. Juste petit point sur les âges, les trois de la défense centrale, que ce soit Lamy, El Hanache et Fernandes Vélez sont des joueurs de la génération 2004. C'est-à-dire que bah, Fernandes Vélez est de la fin de l'année, il va avoir 18 ans en décembre, je viens de regarder, il est né en décembre 2004 à Stein. Hugo Lamy vient d'avoir 18 ans et El Hanache, si je ne me trompe pas, a eu aussi 18 ans il n'y a pas très longtemps. Voilà, juin 2004, c'est ce que je disais tout à l'heure. On passe
Ah, c'est au
au.
moment de la signature de son contrat pro, les 18 ans, je crois, pour LNH.
Ah bah oui, ça doit être ça, oui. C'est souvent ça d'ailleurs. Sur le côté, donc à droite, il y avait le tout jeune Yoram Zagué, qui est donc lui, là je viens de vous dire qu'ils avaient 18 ans, Yoram Zagué, il est de mai 2006 pour vous donner une idée, c'est la même génération que Zaïre Emery qui est archi surclassé. Bon, le pauvre, je trouve qu'on voit qu'il est très très jeune honnêtement. C'est pas un gros gabarit déjà, il est un petit peu frêle, et je
J'avais
sais pas.
peur. C'est vraiment un
Ouais.
petit gabarit. Hein.
Ouais.
Même si de l'autre côté, t'as Vimoges qui est très petit. Lui aussi, tu sens qu'il manque un petit peu d'épaisseur physiquement. Et ça se voit qu'il a fait le bon chez les U19, peut-être de
Récemment.
manière un tout petit peu prématurée. Parce que pour jouer en Youth League en étant en 2006, il y en a très peu dans la compétition. Il y a même quelques 2007.
Ouais.
Mais les 2006 se font quand même rares dans l'ensemble. Chez les autres équipes, c'est plutôt des 2004 et des 2005. Et là, bah, pour le coup, pour être un 2006 qui joue bah, sur la scène européenne, je trouve qu'il faut quand même avoir un petit niveau. Bon, tu sens qu'il a pas expérimenté les U19 même en championnat. Ça manque un peu d'expérience.
En fait, c'est pas du tout méchant contre lui, hein. On le redit, vraiment, on parle de tout jeune joueur et prenez des pincettes, même des fois quand vous en parlez. Enfin, j'ai vu hier des tweets par exemple, la moitié insulter des gamins de 17-18 ans. Prenez du recul, hein. On parle d'enfants encore. Mais donc, je dis vraiment avec toute la bienveillance qu'il faut, on voit qu'il est un peu dépassé par le rythme parfois. Il y a des moments où Benfica allait le presser à 2 ou 3, on voit qu'il n'a pas forcément l'habitude de ce genre de situation. Alors, il va apprendre, c'est normal, ça fait partie de sa formation, de tout ça. Mais c'est là où on se rend compte de l'intensité, du niveau aussi requis pour participer à ce genre de compétition. Et il a de vraies qualités, on le voit déborder régulièrement, comme on dit sur le live, il est très rapide, mais il rate souvent la dernière passe ou les centres. C'est peut-être aussi parce que quand il faut faire la dernière passe ou le centre qui va bien, et encore il a réussi un ou deux bons centres, je crois que c'est lui qui centre quand Hosni fait son retourné impressionnant, par exemple.
C'est lui qui centre et il est notamment à l'origine de la sortie de balle pour le but
Voilà.
de Ilias. C'est un sacré geste, mine de rien, parce que la passe qu'il fait, elle élimine, je crois, toute la ligne du milieu de Benfica. Et c'est lui qui lance l'offensive. Donc, non, pour sa gouverne, ça reste l'un des très gros potentiels de la génération 2006 du PSG. De toute façon, c'est pas pour rien
Qu'il est là, quoi,
qu'il
déjà.
avec les U19, hein, donc c'est quand même un. Non, c'est un bon joueur, c'est un international U17 français. Et non, il a des qualités. Après, voilà, je pense que c'est bien pour lui et son développement qu'il puisse jouer déjà à cet étage-là, très jeune.
C'est super. Là, il saute des étapes. On va pas faire semblant. Tu sautes des étapes, tu fais des erreurs, mais t'apprends aussi très vite, quoi. Donc bon. Voilà, on va pas non plus s'étendre 1000 ans sur son match. Il y a du bon et du moins bon, mais c'est vrai que par exemple, quand le PSG n'arrivait pas forcément à ressortir le ballon en première mi-temps depuis l'arrière, On a vu que le pauvre Yoram était un peu sous l'eau et je le redis, c'est normal à cet âge-là, ça fait partie de sa formation et puis les équipes en face ont le droit d'être bonnes aussi. Et pour le coup, Benfica, malgré leurs difficultés, je trouve à mettre en bonne position leur avant-centre, est une très bonne équipe au milieu du terrain en tout cas. On passe à gauche où c'était le Vimoges, Muntu Amungu qui était donc titulaire, parce que c'est le titulaire du poste depuis maintenant plus d'un an. C'est à peu près l'an dernier à cette époque-là qu'il a commencé à prendre le poste en Youth League. Bon, il a fait un match. J'avoue que je ne saurais pas trop caractériser sa rencontre. J'ai l'impression qu'on l'a pratiquement pas vu. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Zoumana Camara aime bien lui demander de serrer avec l'axial gauche, notamment dans le travail défensif. Il a essayé de contenir un peu le couloir, mais il avait quand même un client. Diego Moreira a quand même balayé toute la ligne offensive. Il était souvent à droite, à gauche, à droite, à gauche. Donc c'est Lamy et Fernandez Félix qui s'en sont occupés, et plutôt bien. Mais Muntu Vamungu a fait un bon travail, je pense, défensif. Après, on a plus l'avantage, lui, de le voir offensivement, et honnêtement, on l'a pas trop vu. Le jeu a basculé un peu à droite, je trouve.
Ouais, je suis d'accord avec
toutes
toi.
Les offensives sont venues de la droite, avec notamment des centres de Zague. Et on n'a pas beaucoup vu le côté gauche. Même Garbi est assez...
Beaucoup rentré dans l'axe, en fait. Donc,
ouais.
C'est vrai qu'on a un peu négligé ce côté gauche, alors que contre la Juve, notamment, on l'avait très, très bien exploité. Et je pense que l'absence de Zaïre Emery, qui est un joueur qui aura tendance à peut-être jouer côté gauche avec l'intérieur de son pied droit, s'est un peu fait ressentir. Bakbemma, si je me trompe pas, il est droitier ou il est gaucher? J'ai l'impression qu'on a... On
il est
a pas
droitier,
du tout... Il est droitier, j'ai l'impression qu'il ouvre plutôt le jeu côté droit, là où Zaïre Emery a une vision peut-être plus globale, pardon. Peut-être pour ça qu'on n'a pas beaucoup vu Vimoges, mais bon, en tout cas. Et puis je trouve que Garbi avait un peu du mal à s'intégrer au jeu en première mi-temps, et ça n'a pas aidé du tout notre jeune piston gauche. Donc au final, un match où bon, il n'a pas fait d'erreur, c'est déjà pas mal à ce niveau-là, mais il n'a pas non plus spécialement pu, en tout cas, se mettre en avant. Tu veux rajouter un truc ou on passe aux deux milieux axiaux?
On peut passer au milieu.
Ouais, alors les deux milieux axiaux, on va commencer par le plus jeune, Zoumana Bakbemma, qui est donc le remplaçant numéro 1 au milieu de terrain. Bah, il est titulaire avec le 19 souvent parce que Zaïre Emery est quand même très souvent avec l'équipe première. Donc Bakbemma, c'est un joueur de la génération 2004, janvier 2004, mais c'est un joueur qui n'est pas du tout mûr. Il est grand, il est immense, il a des grandes, grandes jambes, vous ne pouvez pas le louper sur le terrain, je vous assure. Mais il n'est pas du tout mûr physiquement, ça se voit par moments. Il a été sorti dès l'heure de jeu, comme je disais tout à l'heure. J'avoue que je n'ai pas trop compris pourquoi il avait. J'ai l'impression qu'il est un peu pris pour le désordre général. Toi, tu me disais que tu l'avais trouvé peut-être un peu en difficulté. Alors, je vous avouerai que le début, vers l'heure de jeu, tout ça, c'est le moment où j'avais des trucs à faire. Donc, j'ai regardé d'un œil un peu moins attentif le match.
Là, globalement, c'est un joueur qui a des qualités athlétiques, qui couvre une grande surface du terrain, qui court beaucoup. Mais quand il s'agit de relancer face à un pressing... intense, c'est un peu compliqué. Donc peut-être que Zoumana Camara a voulu faire un changement là-dessus avec un joueur Kari qui est plutôt bon à la relance, honnêtement. Et peut-être qu'il a voulu faire entrer Diawara justement pour rajouter un peu de qualité technique au milieu plus qu'athlétique. En tout cas, bon, une heure de jeu qui a pas été spécialement positive comme négative, elle a été plutôt neutre, je trouve.
Ouais, je suis d'accord avec toi. On l'a pas forcément beaucoup. En fait, je trouve que, aussi, et c'est valable pour lui comme pour Carey, quand Benfica nous pressait et défendait en avançant en première mi-temps, ils ont eu du mal vraiment à se retrouver, à se mettre dans le sens du jeu. On voit que c'est des situations qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de croiser en championnat, en fait. Parce qu'aucune équipe vient presser le PSG dans les 18 mètres en championnat, pratiquement. C'est trop dur parce qu'il y a trop de qualité technique et les joueurs n'ont pas la caisse athlétique pour le faire. Là, Benfica a la possibilité de le faire parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui. Enfin, quelques joueurs qui évoluent même des fois en D2 portugaise, donc ils ont vraiment du rythme, c'est physiquement plus mûr, quoi. Et en plus, Bagnéva est un joueur qui n'est pas encore très très mûr athlétiquement, qui est vraiment un joueur à maturité tardive. Et il y en a plein, on est comme lui, hein, faut pas leur jeter la pierre, mais je pense que c'est un joueur qui est en plein développement, et un match comme hier, il se retrouve un peu confronté à ses limites du moment. Alors, c'est un joueur, je le trouve, est en pleine progression et en train de devenir vraiment intéressant. Mais hier, c'était pas forcément le meilleur moment de sa saison, en tout cas.
Bah, la bascule, en plus, où il devient titulaire dans l'équipe U19, se fait il n'y a pas si longtemps que ça. C'était sur les play-offs de fin de championnat l'année dernière. Donc en mai, hein, c'est pas si loin que ça, où Zaïre Emery commence à lui disputer l'Euro U17, donc manque les play-offs. Bagbema le remplace et fait plutôt bonne impression. Il est d'ailleurs buteur. Et du coup, il prend la place de titulaire cette saison, vu que Zaïre Emery ne redescend plus trop chez les U19. Il a joué le match de Youth League face à la Juventus, mais les deux derniers matchs en Ligue des Champions avec le groupe pro face au Maccabi Haïfa et face au Benfica.
Ouais. En tout cas, lui aussi, il est en pleine progression à suivre, mais c'est bien pour ce genre de joueur de se confronter à ce niveau-là. Sur l'autre milieu de terrain, c'était un des joueurs les plus connus de l'équipe, c'était Ayman Carey, le milieu de terrain international U19, U18, je sais plus. U18 et maintenant U19, quoiqu'il a pas dû être, il n'était pas convoqué pour la dernière trêve, puisqu'il revient d'une grosse blessure à la cheville, contractée fin mai. Il n'y avait plus de match, mais Zoumana voulait encore qu'il s'entraîne, et il s'est malheureusement explosé la cheville à ce moment-là. Ce qui a peut-être d'ailleurs sauver le PSG d'un éventuel départ au Bayern Munich. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Sur Ayman, j'avoue, moi, c'est un des joueurs que j'attendais un peu le plus, mais je l'ai un peu trouvé en manque de rythme, un peu comme depuis le début de saison. Je trouve qu'il a vraiment beaucoup de mal à se remettre de cette grosse blessure à la cheville. En fait, quand le ballon est dans ses pieds, bon, il a toujours cette capacité à casser des lignes, à faire mal et tout. Bah, c'est lui, par exemple, qui était au départ du premier but à Haïfa il y a 15 jours. Mais je le trouve un peu spectateur pendant les rencontres. Je ne retrouve pas le joueur à l'activité un peu permanente, capable de faire beaucoup de choses, qui faisait une paire extraordinaire avec Zaïre Emery l'an dernier. L'accumulation des minutes devrait lui faire du bien, parce que là, si je ne me trompe pas, ça doit être sa troisième ou quatrième titularisation de la saison à peine. Je trouve qu'il est encore en phase de reprise, ça se voit, il a pas encore retrouvé ce punch, cette capacité à peser sur les matchs. Non, c'était pas son deuxième match de la saison quand même, c'était déjà il a joué. Oui, vas-y.
Il a repris en championnat, il a joué quelques matchs en championnat, il a dû jouer les trois derniers, je pense.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Il était titulaire face au Maccabi Haïfa sur la deuxième journée de Youth League, et là il était de nouveau titulaire.
Ouais, c'est la deuxième en Youth League. Ouais. Mais il a dû faire deux matchs de Youth League et trois de championnat à tout casser. On voit que bon, je trouve qu'il a vraiment besoin de reprendre du rythme. Après, je sais pas si c'est pas la première fois qu'il joue 90 minutes cette saison. Peut-être qu'en championnat. Je suis même pas sûr qu'il joue 90 minutes en championnat jusque-là.
Bon. Face à Haïfa, il joue pas les 90 minutes ?
Je suis pas certain, mais après Haïfa, la deuxième mi-temps, bon, ça s'est joué les mains dans les poches, hein, globalement. Le match était plié à la pause. L'entraîneur Haïfa avait quand même fait deux changements au bout de 20 minutes, tellement il se faisait dérouiller. Donc... Enfin, bon.
Ça devrait lui faire du bien d'avoir joué les 90 minutes comme ça, où le match était ouvert jusqu'au bout.
Plus qu'ouvert, même. Intense, on peut dire. Ouais. Bon. Non, je sais pas, toi, peut-être que tu es un peu moins dur que moi. J'avoue que je garde de tellement bons souvenirs de sa campagne de l'an dernier que je reste un peu sur ma faim jusque-là. Mais je le redis, c'est un joueur qui revient de blessure et qui a 18 ans à peine. Hein, faut pas non plus le. Je suis pas en train de l'enterrer, quoi.
Non, je suis un peu sur la même longueur d'onde que toi. Parce que forcément, on garde des souvenirs d'un très très bon joueur l'année dernière. C'est la révélation de l'année pour moi, hein, avec Zaïre Emery qu'on découvrait aussi à ce niveau-là. Mais les deux ont fait une saison. Franchement exceptionnel à ce niveau chez les U19, c'était très 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 intéressant. Enfin, on a pris quasiment la supériorité sur tous nos adversaires techniquement au milieu l'année dernière. Et non, Bah, là, cette saison, comme tu le dis, c'est son retour de blessure, je pense qu'il le prive un petit peu de ses appuis, notamment. C'était un super joueur dans les appuis pour se retourner, jouer dos au jeu et basculer devant. Et non,
Ouais,
on a des.
on n'a pas encore retrouvé totalement ça, quoi.
Ouais, c'est ça.
Bon. Je regardais, non, il avait joué que 66 minutes à Raifa, tu vois. J'étais parti voir, effectivement, c'est un joueur en
Ouais, donc
reprise, il n'y a
ça
pas
doit être
quoi.
son premier match à 90 minutes, je pense.
Ouais, c'est vrai. Bon. Ouais, faut pas l'oublier, lui aussi, c'est un 2004, novembre 2004. C'est intéressant sur la génération 2004, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs de fin d'année. Donc, c'est des joueurs, en fait, souvent, c'est un truc très courant dans les centres de formation, vous allez prendre une génération, donc c'est par année civile, hein, c'est du 1er janvier au 31 décembre, et ce qui est d'ailleurs pas du tout logique, parce que les saisons sont décalées de 4 mois, donc. Et vous allez avoir beaucoup de joueurs du début d'année, des joueurs nés entre janvier et juin, et très peu de la fin d'année, parce que justement, c'est des joueurs qui sont tellement en retard athlétiquement, et c'est normal, puisqu'il y a un décalage à cet âge-là, qui vont forcément avoir du mal. Et c'est-à-dire que le PSG a eu l'intelligence de faire confiance à des joueurs moins prêts athlétiquement parce qu'ils ont vu des choses en eux. Pour moi, c'est quelque chose qui est. C'est-à-dire que derrière, il y a une réflexion, un processus qui est intéressant. Et quand j'entends les clichés habituels, gnagnagna, en France, on voit que des bourrins dans les centres de formation, c'est déjà, c'est complètement faux. Mais ça veut dire qu'en plus, c'est des joueurs qui sont pratiquement à comparer avec ceux de la génération 2005. Donc, ils sont pas du tout en retard, ils sont même plutôt en avance pour certains. Quand je vois ce que sont capables de faire, pardon, des Fernandez-Vélez qui sont de décembre 2004 ou des Kairi de novembre 2004, même LNH, il est de juin. Ça veut dire qu'ils sont pas du tout en retard dans leur maturité de joueurs. Au contraire, ils sont même plutôt en avance. C'est encore plus prometteur, en fait. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Voilà. Sur les trois devant, on avait
D'ailleurs,
deux.
juste
Ouais.
pour compléter sur Carré, on peut quand même dire qu'il a profité de la trêve pour monter avec le groupe pro.
Oui.
Voilà, il a fait partie du petit noyau de jeunes joueurs qui a complété les noms internationaux du groupe. Donc voilà, il a profité de la trêve pour participer à tous les entraînements de Galtier.
C'est
Bah, je
bien.
pense que ça a dû lui faire du bien pour le rythme, notamment parce qu'il postule du coup à jouer 90 minutes hier sur la rencontre.
Tout à fait. Dans les trois de devant, on avait comme toujours donc Noah Lemina en ailier droit, qui est sorti dès la mi-temps. Alors je ne sais pas si c'était une sanction ou si c'était un petit problème physique. Je ne sais pas, tu l'avais vu un peu boiter, toucher en fin de rencontre, ou on en sait plus ou pas? Si vous
Non.
savez sur le live, moi j'avoue que je me suis demandé si c'était pas justement pour. On a fait rentrer Chikambu à sa place parce que, bon, un profil un peu différent, peut-être moins dans la percussion que Noah Lemina, qui est vraiment un joueur très 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 vertical qui prend le ballon et qui percute en gros. Et c'est pas du tout péjoratif, hein, au contraire, c'est un profil qui est très demandé. Bon, il est. Je pense que le pauvre Noah, il a un peu subi les manques collectifs de son équipe et un peu payé les pots cassés. Après, il n'a pas été très très bon non plus sur l'utilisation du ballon, mais bon. Sais pas, toi.
Ouais, pour le coup, c'est pas trop la première fois que Zoumana Camara opère ce genre de changement assez tôt dans la rencontre à la mi-temps comme ça. C'est pas la première fois qu'il sort.
Oh, il n'hésite pas, hein.
Mais du coup, bah, Chikambu est un joueur un peu différent qui, je trouve, couvre un peu mieux les espaces derrière. C'était peut-être une consigne, c'est peut-être ce qu'a voulu corriger aussi Camara à la mi-temps, en faisant sortir Lemina qui n'était pas spécialement dedans. En général, quand il est dedans, ça se ressent très très vite dans la rencontre. Et là, voilà, il y avait un petit manque de tranchant offensivement, il n'a pas fait toujours les bons choix en première mi-temps, donc c'est pas une sanction, mais je pense que c'était un changement qui était justifié.
Ouais. On nous demande est-ce que Chikambu c'est pas un joueur qui joue plus sur la ligne? Je le connais pas très bien, je vais éviter de répondre, je sais pas ce que t'en penses, Lucas.
Bah avec Lemina et Garbi, t'as des joueurs qui aiment l'axe.
Qui joue vers l'intérieur beaucoup, ouais.
Ouais, bah comme Messi et Neymar. Hein, en fait, cette équipe, elle est vraiment très calquée sur l'équipe pro dans sa structure et son ossature. Après, Chikambu, ouais, c'est un joueur qui peut-être te permet justement d'aller prendre un peu plus l'aile, de combiner avec Zague. C'est comme ça que ça se fait d'ailleurs le premier but où on prend le côté droit dans toute sa largeur. On repasse par l'axe, on prend Chikambu sur l'aile droite qui repique dans l'axe et qui trouve Ousni dans l'axe. Mais ouais, c'est un joueur qui couvre un peu plus la ligne.
Ouais, bon. En tout cas, Chikambu, il n'est pas impliqué sur le but, c'est pas lui qui sert au sneak.
Si, c'est lui le passeur décisif.
Ouais. Écoutez, je pense qu'on va le revoir, Chikambu, parce que c'est pareil, c'est un tout jeune joueur. Et c'est un 2005, lui, si je me trompe pas, non?
C'est un 2005, c'est comme Lemina, hein, d'ailleurs.
Et voilà, est-ce que je vous disais décembre 2005, donc il a vraiment 16 ans à peine. Hein. C'est fou à quel point le PSG a basculé comme ça sur des joueurs moins mûrs athlétiquement. Lemina est de juin 2005, donc Lemina a déjà 17 ans, Chikambu, il les a pas encore. Mais bon, faudrait interroger les gens du PSG sur un peu si une volonté comme ça d'avoir des joueurs de fin d'année plutôt que des joueurs de début d'année. Des joueurs quitte à perdre athlétiquement pour gagner ensuite, pour les faire se développer vraiment dans le dur, qui souffrent un peu athlétiquement, puisque c'est quelque chose qu'ils vont rattraper ensuite logiquement. Mais bon, à suivre. On nous demande, est-ce qu'il y a des recrues cette année pour cette équipe supervisée par Campos ou Caballo Zumana? Il n'y a pas eu de recrues cet été, je crois, dans cette équipe U19.
Non, pas de recrues alors que...
Il y en avait eu l'année d'avant.
Globalement, tu as toute la génération 2003 qui n'est plus éligible. Donc tu perds Michu, Simmons, tu perds quand même
Bojang.
Vachement de gros joueurs. Hein. Bojang qui est prêté. Tu perds la vallée dans les caves. Enfin, tu perds beaucoup de joueurs et au final, le PSG a été pioché dans son réservoir U17, qui était aussi très performant puisqu'ils ont atteint les playoffs. C'était d'ailleurs la seule équipe à atteindre les playoffs, donc le PSG en U17 et en U19. Donc je pense que c'est un choix du club d'avoir été pioché dans ce qu'il a déjà à disposition plutôt que d'aller recruter ailleurs et de devoir gérer de la préformation. Voilà, ça, c'est un peu difficile à chaque fois d'aller chercher. Notamment, je vois beaucoup de gens sur Twitter qui réclament des étrangers, mais c'est très très dur pour des jeunes d'aller s'acclimater à une nouvelle culture, à un nouveau championnat. Comme ça, c'est très compliqué. On peut pas opérer des changements dans des catégories jeunes comme ça, on ne peut pas les piocher. Enfin, il y a des équipes qui le font et la Juve l'a fait. D'ailleurs, cet été, ils ont pris beaucoup de joueurs à droite à gauche, un ailier du Bayern, un ailier d'Anderlecht, et on l'a vu en fait quand moi j'étais au camp des loges sur la rencontre. Il y a un cruel manque d'automatisme à cet âge-là. On peut pas se permettre de faire venir des joueurs des quatre coins du monde comme ça et les faire jouer ensemble. En fait, ça peut pas se faire comme ça.
Et puis, il y a des différences culturelles. Moi, je vous cite un exemple. Vous vous souvenez de Giovanni Lo Celso, quand même, qui est international, qui est passé chez nous. Il était venu avec son frère, Francesco Lo Celso, qui était un des plus grands espoirs de Rosario Central. Il a joué au total 10 minutes avec les jeunes du PSG et il n'était pas seul en France. Il avait donc son grand frère, toute sa famille. Et malgré ça, il a eu beaucoup de mal à s'adapter. Et il est reparti à Rosario Central. Et finalement, bah, aujourd'hui, c'est un joueur assez quelconque du championnat argentin. En plus, il s'est fait les croisés, le pauvre, il n'y a pas longtemps. Bon, il a quand même été international argentin U20. Là, je suis parti sur sa fiche Transfermarkt pour suivre un peu ce qu'il est devenu. Mais c'est très, très compliqué pour un tout jeune joueur de s'adapter. C'est-à-dire qu'ils arrivent, donc ils ne parlent pas français, hein, à part si c'est des Africains francophones ou des Suisses ou des Belges, mais il y en a très, très peu, on va dire. La plupart, si vous voulez... Ceux qui rêvent de la pépite sud-américaine, le pauvre, il arrive, il parle pas un mot de français. Hein, voilà. On leur demande de changer de rythme de vie. On leur demande de changer de langue maternelle. Et ça, c'est super dur, même si à cet âge-là, les jeunes apprennent quand même assez vite. Pour un Xavi Simons, qui est un joueur un peu particulier, qui est déjà starisé, qui arrive, qui est déjà très mature, en fait. Pour un comme ça, il y en a 10 qui vont complètement se perdre, qui vont exploser en vol. Si vous regardez, c'est aussi un peu ce qui arrive aux jeunes parisiens qui partent très très jeunes des fois, en Allemagne, à Leipzig, à Salzbourg. Combien sont partis de chez nous à Salzbourg et se sont complètement perdus? Je pense à un Mohamedou Dembélé, je pense à un Abdourahmane Barry qui aujourd'hui joue dans des petites divisions alors qu'à l'époque ils étaient capitaines du PSG ou presque, dans les équipes U19. Donc aller chercher des très jeunes joueurs, outre le fait qu'on n'est pas des esclavagistes, il y a quand même des gros 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 problèmes d'intégration, d'adaptation, qui sont difficiles à résoudre. On me dit Arthur Gomez à Manchester City. Tout à fait, excellent exemple. Même un Adrien Rabiot qui est très encadré, qui a très très vite été tourné vers un avenir professionnel, s'était complètement perdu à Manchester à 13 ans. Il avait explosé en vol et il était reparti au bout de, je crois, 6 mois à Pau. Donc voilà, puis comme on dit sur live aussi, la région Île-de-France est un réservoir largement suffisant. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Hein. Il y a quelques années, on était allé chercher Baptiste Giacomini, notamment, à Bayonne, si je me trompe pas. Bon, bah, il avait joué un petit peu, mais au final, il n'a pas percé, alors qu'à Bayonne, il avait des stats tout à fait exceptionnels. On nous demande comment vont Camara et Koulibaly, ça se passe comment pour eux ? De mémoire, Camara et Koulibaly, ça se passe pas si mal que ça à Dortmund. Donc, Abdoulaye Camara, qui était en 2005, puisque si je me trompe 2004. Pas, 2004, novembre 2004, ouais. Il me semble qu'il est titulaire en Youth League avec le BVB. Il joue avec la réserve, il joue un match sur deux avec la réserve, en gros. Et en Youth League, je suis parti voir ce qu'il joue. En Youth League, il est titulaire, voilà, avec le Borussia. Et Soumaïla Koulibaly, qui est un énorme potentiel, il doit jouer, si je ne me trompe pas, un peu plus encore. Puisque, voilà, il joue en réserve. Bah, pareil, avec la réserve, il joue un match sur deux. Et en Youth League, il doit jouer un peu plus en... Mais je crois qu'il n'a pas joué en Youth League. Bah non, il est trop vieux, c'est en 2003. Donc il ne doit plus jouer. Il joue avec l'équipe réserve, voilà. En troisième division. Et il joue une fois sur deux.
Quoi ? On nous dit dans le live, Malissa et Montero sont vite repartis. Et j'allais en parler, justement.
Exactement.
Récemment, ces dernières années, on a fait des joueurs donc comme Manissa et Montero qui ont été des flops. D'ailleurs, Lenny Manissa est un peu l'énigme du...
Ah, immense énigme de la saison passée.
Ouais. Mais par contre, on a fait d'autres joueurs aussi qui se sont très bien adaptés. JD Gassama qui a été pris à Brest. Et Sekou Yansane qui, lui, est parti au Qatar, mais qui était...
À Dijon,
et les deux ont été le duo le plus prolifique de la saison, avec chacun une vingtaine de buts. Donc voilà, il y a des joueurs qui se sont très bien acclimatés, comme il y a des joueurs qui ont été des flops.
Ouais, c'est ça. Des nouvelles de Bernet. Je crois que le pauvre Antoine, qui était un de mes coups de cœur du centre de formation, est malheureusement empêtré dans ses problèmes de blessures, et je pense qu'à son âge, il ferait mieux de quitter Salzbourg où il ne compte pas trop sur lui, le pauvre, malheureusement. Mais bon, cœur sur toi, Antoine. Reviens, si tu veux. Là, je sais même pas s'il est blessé. En tout cas, il joue plus beaucoup à Salzbourg. Il faut qu'il parte, le pauvre. On reprend notre petit tour. On finit. Il y a deux joueurs qu'on n'a pas encore évoqués. Ça fait pratiquement une heure qu'on est en live, déjà. Ça passe vite. On passe de bons moments. À partir de quelle catégorie d'âge les jeunes peuvent percevoir un salaire? Je sais pas, U7, U8. Non, globalement, ça fait partie des trucs où je pourrais pas vous dire ce que disent les règlements. Et ce que dit, entre guillemets, le milieu, on va dire, voilà. Non, c'est compliqué, parce que globalement, ils sont tous plus ou moins payés, voilà. Axe gauche de l'attaque, faux ailier gauche, plutôt axe gauche, c'était Ismaël Garbi, qui fait pour moi un match vraiment en deux temps. J'ai trouvé sa première mi-temps complètement un contre-temps, à vouloir, peut-être qu'il fallait plus poser le ballon, le tenir, plutôt que de vouloir être dans la verticalité la plus totale comme il l'a été. Lemina a été sorti à la pause. Moi, ça m'aurait pas choqué que ça soit Garbi qui soit sorti aussi, parce que je trouve que sa première mi-temps, il lit mal le match, en fait, tout simplement. La deuxième mi-temps est très bonne, en revanche, et on a retrouvé le joueur qui est en train de devenir dominant, le joueur vraiment agréable techniquement, fin, qui sent bien le jeu, qui sent bien les coups. Mais c'est là qu'on voit qu'il manque encore un petit peu de maturité, et c'est normal, je le redis, on parle de joueurs très jeunes. Donc c'est bien, je trouve, d'avoir su corriger en cours de route. Mais c'est vrai que si tu attendais peut-être plus d'un joueur un peu leader comme ça, je sais pas ce que t'en as pensé, Lucas, t'es peut-être moins dur que moi, mais c'est vrai que ce genre de...
Bah, c'est bien fait ceinturer, en fait, en première mi-temps. C'était souvent... Benfica défendait souvent en 2-1 sur lui. C'était assez compliqué en première mi-temps, même de toute façon vis-à-vis de l'équipe, hein, collectivement, la première mi-temps est beaucoup moins bonne. Et même nos circuits à la relance sont presque inexistants. On essaye de balancer des ballons devant et demander à Garbi d'aller chercher des ballons aériens ou même dans la profondeur. Comme ça, c'est pas un joueur de profondeur, c'est un chef d'orchestre, un peu un meneur de jeu technique qui aime l'axe. Mais on n'a pas ce profil... Lemina est plus ce profil d'ailier qui peut aller apporter de la vitesse et jouer la profondeur.
C'est pas compliqué. Lemina est clairement... Juste coupe, excuse-moi. Lemina est un joueur de rupture. Garbi ne l'est pas du tout. Quoi. Voilà. On peut résumer ça comme ça.
Donc je pense que c'est... c'était pas une première mi-temps qui lui correspondait dans son style de jeu. Et en fait, c'est... La reprise du PSG lui va beaucoup mieux. On se met à construire, à relancer, à poser le ballon au sol. Et là, on peut le trouver entre les lignes, et lui, c'est ce qu'il aime, c'est être trouvé, combiné dans les petits espaces, avoir un joueur. Enfin, Chikambu lui a fait du bien aussi avec son entrée. Voilà, ça s'est mis à. On a retrouvé la complicité technique qu'il peut avoir aussi avec Ousni. Globalement, sa deuxième mi-temps est bien meilleure et va beaucoup mieux qualité du joueur, en fait.
Ouais. Ouais, à partir du moment où le PSG arrive à sortir le ballon et lui amener jusqu'à peu près le milieu de terrain, ensuite il fait parler sa vision du jeu, sa qualité technique, sa capacité à impliquer les autres joueurs, et là il devient beaucoup plus intéressant. Mais c'est vrai que quand. Enfin, globalement, le PSG en premier temps jouait pratiquement le contre, quoi. La transition très rapide, ça collait pas trop, quoi. Autant Lemina peut exister dans ce genre de rencontre, autant Garbi, il y a des fois, comme tu dis, il était bien pris, il tentait de percuter, mais il perdait la balle. Il joue un peu à l'envers, un peu comme toute l'équipe d'ailleurs. À partir du moment où le PSG est redevenu l'équipe de possession, l'équipe qui joue avec le ballon, qui fait courir, qui alterne gauche-droite, axe, de la verticalité, mais des fois du retour en arrière, des décalages, tout ça, là, c'est redevenu un joueur vraiment intéressant qui peut s'appuyer sur ses qualités propres. Après, c'est toujours intéressant de le voir justement dans la difficulté, voir comment il est capable de reprendre le fil de sa rencontre ou pas. Mais bon, c'est clairement un match où tu vois qu'il, je suis pas sûr qu'il y soit beaucoup amusé en première mi-temps, par exemple. En seconde, probablement beaucoup plus, mais je suis pas sûr qu'il ait beaucoup pris son pied en première période, en tout cas. Tu veux rajouter quelque chose ou on passe à Ousni, le buteur, Elias?
Non, tout simplement, juste à la première mi-temps, c'est y a beaucoup de joueurs qui sont à l'aise techniquement dans cette équipe, qui ont été timides un peu à la relance. On a senti que, en fait, on était un peu flippé avec le ballon. Et je pense que ça s'est repris avec la pause. Et puis, il y a dû avoir une bonne causerie. Enfin, en tout cas, l'équipe a repris confiance. Mais même, voilà, à l'image de Garbi, il y a d'autres joueurs qui ont eu des lacunes techniques qui sont inhabituelles. Même en défense. Enfin voilà, le PSG a vraiment manqué sa première mi-temps techniquement. Et voilà, je pense que on peut rajouter ça un peu à l'analyse du match de Garbi, voilà, qui est passé à côté de sa première période et qui s'est bien rattrapé en seconde.
Bah écoute, ça sera la conclusion sur Ismaël. Dernier joueur dont on va parler, Ilias Ousni, l'avant-centre, qui est donc l'auteur du seul but du match. C'est son combientième en Justix, 5e ou 6e déjà, non? Il chiffre.
C'est le quatrième.
Quatrième, bah tu vois, j'étais encore plus gentil avec lui.
En revanche, il a 9 buts en championnat.
Ah oui. Mais en même temps, quand on met 6 d'un coup, ça aide. Hein. Ouais, effectivement. Ça. 3 matchs de Justi, 4 buts de passes décisives, c'est pas mal. 55% des buts sur lesquels il est impliqué, ça chiffre quand même. Ouais. Bon, un match plus compliqué que d'habitude pour lui. La première mi-temps, notamment. Il a tenté d'apporter la profondeur, mais il s'est souvent fait prendre au piège de hors-jeu. Je crois qu'il est hors-jeu 3 ou 4 fois sur la rencontre au total.
Ouais, hors-jeu 3 ou 4 fois, mais vraiment à un cheveu près. Hein. Il y en a certains que moi, je sifflerais même pas. Il y en a deux notamment qui sont vraiment mais très 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 limitants.
Ah, tu trouves? Moi, je trouve au contraire qu'à chaque fois, il était un peu trop en avance, justement, que les hors-jeux étaient assez... Bon, après, ça, c'est... on n'avait pas le révélateur. Hein. C'était des images arrêtées. Bon, mais ça correspond... Ouais.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Non, mais comme tu dis, il y a beaucoup moins de technologie dans la compétition. On voit même pas les lignes quand il y a les ralentis.
Ouais, ça c'est le vrai football. Il y a encore un côté très... C'est bien, il y a un côté aussi un peu, peut-être pas amateur, mais antique. C'est le football antique qui se joue au U19, messieurs. Non, sinon, il met un joli but, Ilias. Il a un peu moins joué que d'habitude, je trouve, en remise, mais c'est vrai que le ballon, la première mi-temps, il est rarement arrivé jusqu'à lui. Le pauvre, il a beaucoup couru dans le vide. Il a toujours cette capacité à beaucoup courir, à proposer beaucoup de choses, mais ça n'a pas toujours été facile pour lui non plus. Je ne sais pas ce que tu en as pensé.
Après, pour le coup, c'était intéressant comme match pour un attaquant de ne pas avoir beaucoup de ballons. C'est toujours un vrai test. Et il l'a vraiment bien négocié, je trouve. Il a continué à faire à faire l'essuie-glace permanent sur en attaque. Il a continué, il s'est pas découragé, il était toujours en demande de ballon et il a très bien exploité, je trouve, les occasions qu'il a eues à se mettre sous la dent. En première mi-temps, il passe tout proche d'ouvrir le score. En deuxième mi-temps, tout proche aussi d'inscrire l'un des buts de l'année. Hein, franchement, sa reprise, elle est
incroyable.
C'est un geste de très grande classe, geste d'attaquant pur. Et il a un sens du placement. Il a une intuition dans ses déplacements. C'est vraiment un très très bon joueur, je trouve.
Après, oui, bon. Je suis d'accord, c'est un très très bon joueur, mais il y a encore aussi, il faut pas l'imaginer demain en pro au PSG. Ça reste de la compétition U19. Ce que je veux dire, c'est que on voit un joueur comme Ekitike qui, par exemple, a fait des très très bonnes choses à Reims. À quel point c'est difficile pour lui de jouer au PSG. Ça vous donne aussi une idée de la différence entre le niveau U19 et le niveau pro. Je regardais tout à l'heure la Gassama qui avait fait une super campagne de Youth League, par exemple. Aujourd'hui, il est en Belgique, il joue à peine, alors que c'est que l'AD1 belge. Voilà, faut relativiser malgré tout. Il fait une super saison, je vais pas dire le contraire, surtout qu'il est de mai 2005, mais ça reste aussi un joueur très très jeune qui a encore beaucoup à se développer. On me dit, il a quel gabarit aujourd'hui? Il est grand aussi, il doit faire bien 1m85 facile, hein, mais il doit être autour de 75 kilos par exemple pour exister en pro. Peut-être qu'ils seront à 80 par exemple, non? Enfin.
Ouais. Honnêtement, je trouve que ça lui correspond plutôt bien. Le gabarit lui permet justement de garder cette vivacité qu'il a sur ses appuis. C'est sûr que je te rejoins complètement sur. À chaque fois qu'on voit un bon match d'un jeune, tu vois 2-3 commentaires, faites-le monter en pro, etc. Mais c'est pas du tout possible en fait. C'est un joueur qui fait le bon des U17 au U19 déjà.
Oui, tu as raison.
Il y a quelques mois à peine, il était encore en train de disputer les playoffs chez les U17. Donc cette année, il découvre officiellement les U19, même s'il avait joué quelques matchs. Il avait notamment inscrit un triplé sur l'un des rares matchs qu'il avait joué en U19 l'année dernière avec Zoumana Camara. Et là, pour le coup, il est pleinement installé dans cette équipe U19. C'est sa première année dans cette équipe, contrairement à d'autres joueurs comme Ayman Kari ou Garbi ou Vimoges et tout. Lui, c'est sa première année et il fait un très très bon début de saison avec 13 buts. Il découvre aussi la Youth League et il la découvre plutôt bien. C'est du positif. Hein.
Ouais, non, je suis d'accord, c'est très positif. On nous dit il est si grand que ça. Ah oui, il est assez grand. En fait, quand il est à la fois grand, mais il a une vraie souplesse.
De quoi? Peut-être un 80.
Ouais, peut-être un 80. Je pense. En fait, c'est un joueur qui m'a pas l'air d'avoir fini sa croissance pour le.
Ouais.
À suivre. Faudra voir comment il finit de se développer athlétiquement, morphologiquement, parce que ça change quand même beaucoup de choses dans son style de jeu. Aujourd'hui, c'est un joueur qui est très très mobile, qui est capable de faire beaucoup d'appels, de se déplacer, de jouer de haut but, de balayer vraiment toute la largeur du terrain. Faudra suivre. On nous dit, je trouve deux sources qui le donnent, 1m77, 1m78. Alors, méfiez-vous, les tailles des joueurs comme ça, U17, U19, c'est des tailles qui ont été prises à un moment où les sites se copient entre eux les uns les autres, et c'est absolument impossible de savoir la vraie taille des joueurs. Si vous voulez une idée, il y avait un petit milieu de terrain chez nous, je sais plus comment il s'appelle. Il avait été mesuré en U14, je crois qu'il avait marqué 1m63 ou 1m65. Et sa taille l'a poursuivi. C'était Nkunku justement, 1m63 je crois. Et sa taille l'a poursuivi pendant des années parce que tout le monde recopiait cette taille qui avait été prise à l'entrée en préfaux. Alors que ça n'avait plus aucun sens. Aujourd'hui, vous regardez Nkunku, vous voyez qu'il fait pratiquement 1m81 et qu'il doit faire 75-77 kilos. Il est tanké comme pas permis. Il est affûté et tout. C'est pas. Faut raison garder sur les tailles et tout ça. On nous dit en un été ils peuvent prendre 5 à 10 cm. Peut-être pas un été, mais en une année, oui, ça peut aller vite. Mais à cet âge-là, surtout, ils évoluent encore beaucoup morphologiquement. C'est des adolescents en train de devenir des hommes. Ça peut changer. Tiens, pour conclure, tu veux rajouter quelque chose sur Ilias? Peut-être jolie finition sur le but quand même, on peut souligner. Enchaînement, pied droit, pied gauche, comme ça, propre.
C'est très classe pour se défaire des défenseurs. En plus, la situation n'est pas évidente. Hein, comme ça, on ne se dit pas que c'est une occasion franche. Mais il se la crée l'occasion, en fait.
Ouais, il efface le dernier défenseur, vraiment ouais. Bien beau dribble. Quoi.
Ouais, avec une feinte de corps hyper efficace. Derrière, il se met dans le sens du but. Et puis, la finition est bonne entre les jambes du gardien. Non, c'est un beau geste d'attaquant et une belle finition.
Ouais. Tiens, pour finir, pour vous, sur le groupe U19, combien et quel joueur mériterait de s'entraîner régulièrement avec les pros ? Alors, il y a le mérite et il y a les besoins des pros. Au bout d'un moment, tu ne vas pas envoyer des gamins pour envoyer des gamins. Donc, c'est un peu ça. Par exemple, aujourd'hui, le PSG n'a pas beaucoup de joueurs en défense centrale. Et la Nash me paraît être un joueur qui mérite, par exemple, d'aller jouer avec les pros. Encore une fois, si les pros n'ont pas besoin de Younes et la Nash, on ne va pas l'envoyer pour regarder faire des oppositions depuis le côté, quoi. Faut que ça colle à un projet commun. Un joueur comme Elanage, par exemple, me paraît être un joueur qui mériterait d'être peut-être dans le groupe élite, s'il n'y est pas déjà. Je me souviens plus qui est dedans. Il me semble, il n'y est pas dans le groupe élite du PSG, Elanage, Lucas, ou je me trompe.
Non, il n'y est pas.
Voilà, c'est Zaïre Emery, Carri, Garbi, Lavallée et Bichabu, si je me trompe pas.
Ouais. Deux milieux, un défenseur, un attaquant et un gardien. Et
voilà. Attendez, je vous remets la news écrite par un certain Lucas Demange à ce sujet. Non, c'était moi qui l'avais écrite avec le groupe élite, notamment. Mais bon, en tout cas, avant même d'intégrer l'entraînement des pros, qui bascule sur le groupe élite, ce sera déjà pas mal. La rumeur de prêt de Zaïre Emery est évoquée. Non, puisqu'il n'a pas joué hier, donc on n'a pas parlé de la rumeur de prêt. Mais si vous voulez en parler rapidement, en gros, Lorient serait intéressé par ses services, à ce bon Warren. Mais à quel point il est aujourd'hui disponible en prêt, à quel point il a envie d'y aller aussi, il ne faut quand même pas l'oublier, parce que la volonté du joueur reste quelque chose d'important. Moi j'avoue que je suis totalement contre prêter un joueur de 16 ans par rapport à son environnement familial et scolaire, même s'il est déjà pro. Je ne sais pas, toi Lucas, ce que tu en penses, chacun on peut avoir un avis très opposé, hein, ne t'inquiète pas.
Dans sa volonté, je pense que ça lui poserait pas de soucis, puisque l'équipe évoquait un accord personnel trouvé avec Lens pour partir dans le dernier virage du mercato estival, même si ça s'est pas fait. Comme tu dis, c'est peut-être particulier de prêter des joueurs de 16 ans. On n'a plus... D'habitude, c'est plutôt des joueurs de 18, 19 ans. 16 ans, c'est un peu court. Même dans une équipe comme Lorient, qui tourne actuellement super bien, est-ce qu'un joueur de 16 ans a fait mieux ? Ça me paraît compliqué. Hein. La paire, le double pivot avec lequel Lorient joue, c'est du solide, hein, pour aller bousculer Enzo Lefebvre et tout. C'est très compliqué. Hein.
Ouais. Faudra suivre et tout. Moi, j'avoue que je... Pour vous donner une idée en fait de ce que ça représente un joueur de 16 ans, c'est que Rabiot, quand il est prêté par exemple, qui était un joueur très 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 précoce, est prêté avec un an de plus quand il part à Toulouse. Et on sait à quel point ça a été un peu compliqué, et il a ses 18 ans pendant qu'il est en prêt à Toulouse. Bon, là Zaïre Emery, il a encore un an de moins, il a jamais quitté la région parisienne, contrairement à Rabiot qui avait visité l'Angleterre, le sud de la France et tout ça. Bon. Ah ouais, on me dit qu'un prêt de Carri à Lorient pourrait lui faire du bien, mais aujourd'hui Carri il a à peine le niveau U19 Youth League, comme on l'a dit en cours d'émission, parce qu'il revient de blessure. Il a pas vraiment le niveau pour aller jouer à Lorient. Il va y aller, il va jouer en U19 à Lorient. Autant qu'il reste jouer en U19 au PSG, ça sera pareil. Hein. Mais même au contraire, ça sert à rien de l'éloigner de sa famille et tout ça pour des choses. Et Lorient est 3ème du championnat, donc c'est pas la peine. On a le temps de jeu de Zaïre Emery sur ce début de saison. Bah, en pro, il a joué un petit peu. Il fait tous les entraînements avec les pros. Et Warren, il a dû jouer. Bah, il a joué un match en Youth League où il a été monstrueux contre la Juve. Et il a dû faire quelques matchs aussi en U19, si je ne me trompe pas. Il a dû faire un ou deux matchs en U19, peut-être. Bah, en fait, il est.
Il a commencé la saison. Sur les tout débuts, il joue avec la U19. Puis il reste progressivement avec l'équipe première jusqu'à ne plus redescendre, en fait.
Voilà. Et en fait, il a pas mal joué aussi avec la sélection.
Ouais, c'est ça.
Voilà, donc il ne faut pas...
Notamment, la trêve internationale était vachement intense pour les jeunes. Il y a eu trois matchs, hein, une succession de trois matchs hyper, hyper dense, le calendrier. Hein, alors que les internationaux, les A, ont joué deux matchs.
Voilà. On nous demande si Nagera joue avec la réserve de Lorient. Alors là, j'avoue que je n'ai pas du tout suivi. Je ne sais pas, Lucas, toi, si tu as suivi, mais bon, de mon côté, je suis incapable de répondre. Donc, je ne vais pas faire semblant. Voilà. Tu sais ce qui s'y joue ou pas ?
Je ne sais pas.
Bon, écoutez, on va conclure là-dessus. On nous dit le plus bénéfique entre s'entraîner avec les pros et qu'un temps de gens faible. Ça dépend de la maturité du joueur, ça dépend d'énormément de choses, ça dépend à quel point il est intégré aux séances. Il n'y a pas de réponse absolue, sinon tous les clubs le feraient. Moi, je sais que j'ai tendance à privilégier le temps de jeu à un niveau moindre, envoyer des joueurs des fois se frotter au niveau Ligue 2, même au niveau national. Il y a d'excellents joueurs qui sont partis faire des prêts en national, par exemple. Il n'y a pas de honte à aller jouer en national. Au contraire, c'est ultra formateur, mais il faut être capable de se mettre en difficulté, il faut être capable de beaucoup de choses. Il y a des joueurs qui vont pas forcément avoir besoin de ça. Un Kimpembe, par exemple, il n'a jamais eu besoin d'aller jouer en Ligue 2 ou en national. Aujourd'hui, il est titulaire au PSG, il est en équipe de France et tout ça. Et au contraire, il y a des joueurs qui auraient dû à un moment quitter le PSG plus tôt pour aller se frotter à ce niveau-là. Ça dépend des plans de développement du club, ça dépend du club qui va être trouvé, ça dépend de l'entraîneur du club qui va être trouvé, est-ce qu'il voit des choses qui lui plaisent en lui. Franchement, il n'y a pas de vérité absolue. Donc, ça dépend vraiment de chaque joueur. Mais c'est là où le PSG doit être bon, où un mec comme Lucas Catani doit trouver des bonnes portes de sortie pour ces jeunes, quoi, tout simplement. Est-ce qu'il y aura un replay? Oui, vas-y, Lucas.
Pour parler de la nationale, il y a la case nationale aussi pour le PSG, hein, qui peut envoyer des joueurs avec la N3, avec l'association. L'association du PSG qui joue à
la section amateur, niveau, pour ceux qui suivent pas. Voilà,
au niveau de la National 3. En fin de saison dernière, on avait envoyé plusieurs jeunes à cet étage-là, notamment Bichabu, Garbi, qui ont pu profiter de quelques matchs avec la N3. Et pour le coup, ça permet, oui, et la Vallée, du coup, qui joue avec la N3, hein, sur ce début de saison, vu qu'il ne peut pas s'entraîner avec les pros, avec la concurrence, plus le fait qu'il ne soit pas éligible au groupe U19.
Voilà.
Mais ça permet globalement de se mesurer à un monde plus costaud, plus physique. Enfin, physiquement, c'est des joueurs finis, hein, donc voilà. Ça permet aussi de découvrir un peu. Enfin, c'est une bonne passerelle entre le monde pro et les U19.
Ouais, on nous dit qu'il y a 3 clubs parisiens en national, ce serait bien de se rapprocher d'eux. Je pense qu'ils n'ont pas besoin du PSG et que ça ne les intéresse pas forcément. Ils préfèrent former et mettre en avant leurs propres joueurs à ce niveau-là. Voilà.
On préfère profiter du casse Eupen.
Voilà. Aujourd'hui, le PSG prête beaucoup de joueurs effectivement à Eupen. On nous dit, est-ce que la N3 est bloquée? Elle peut monter. Elle peut monter jusqu'en N2 et ensuite elle sera bloquée. Ah, Bikuta est visiblement aussi avec l'équipe B parisienne. Là, je regardais la dernière feuille de match chez les jeunes. On a effectivement Dan Patrice Bikuta qui a joué. Et on a Lucas Lavallée qui est dans les buts, qui a pris la place du légendaire Johnny dans les buts. On salue s'il nous écoute, même si j'en doute. Et en tout cas, pour ceux qui ont l'habitude de la section amateur, ça fait partie des grandes figures de cet autre PSG. Allez, on a fait le tour. Ça a duré plus d'une heure, alors qu'on avait dit qu'on ferait une demi-heure à peine. C'est un peu comme le podcast, finalement. On va vous le mettre en dispo, vous inquiétez pas, sur YouTube, sur Spotify, toutes les plateformes de réécoute. Comme ça, vous pourrez l'écouter en différé. Est-ce qu'on refera un live sur le débrief du PSG Benfica de la semaine prochaine? Eh bien, écoutez, pourquoi pas. On va suivre. En tout cas, on vous dit à très vite. Ce soir, pour ceux qui ne savent pas, il y a le podcast de débrief de l'équipe première et ça sera à 22h pour ceux qui demandent. Pour l'instant, on est 3, je vais en trouver un 4e, vous inquiétez pas. J'ai déjà lancé des invitations, je pars à la pêche à l'intervenant. Allez, encore merci à tous pour les réactions, les commentaires, les subs qui sont tombés en cours de route. C'est vraiment très sympa et on espère que ça vous a plu. Bonne fin de journée à tous, bon courage au bureau. Et bisous. Lucas, tu voulais rajouter un truc? Excuse-moi, je t'ai coupé.
Non, je disais merci aussi.
Ah bah écoutez, on est très polis, donc à bientôt, au revoir, bisous.